Et bonjour à tous et bonjour à toutes, auditeurs et auditrices. Et oui, la grille des programmes est un petit peu chamboulée aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le festival 48 images secondes a commencé. Il a même commencé hier avec la soirée d'ouverture. Et aujourd'hui est projeté les premiers films, en tout cas. Et on a la chance d'avoir pas mal de gens autour de ce plateau. Alors on va faire les uns après les autres. On est quatre invités aujourd'hui qui sont là à Florac, qui sont venus depuis le Québec. D'abord, Andréline Beauparlant. Bonjour Andréline.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Grand plaisir.
Aujourd'hui. On a Karine Bélanger. Bonjour Karine.
Bonjour.
Bonjour. Louis Bélanger.
Bonjour.
Voilà, jusque-là, ça marche. Et Virginie Dubois.
Enchantée.
Ah, voilà, quelqu'un d'un peu original. Merci beaucoup à tous les quatre d'être autour de ce plateau aujourd'hui. Alors, vous êtes tous là pour des raisons un petit peu différentes. Il y a des réalisateurs, il y a des membres du jury qui sont là. On a même la présidente du jury qui est avec nous aujourd'hui. Et on va parler de plein de choses. On va parler de vos films aussi, notamment. Mais d'abord, on va parler de ce qu'on appelle la COP, puisque c'est quelque chose de très important. Ça fête ses 40 ans cette année. Le festival 48 images secondes est tout content et tout joyeux, parce que ça fait des mois qu'il nous en parle. Donc, c'est qu'il doit y avoir une raison. La COP, avant toute chose, je voulais vous demander, pour les auditeurs, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est la COP?
Qui se mouille?
Qui répond? Alors, se mouiller en ce moment, ça va pas être compliqué, mais qui...
À la base, au tout départ, en 1977, c'est un groupe de jeunes qui se réunissent pour faire une coopérative de travailleurs, qui se disent on est attendu nulle part. Que ce soit dans les grandes maisons de production, dans les grandes maisons de distribution, où on est attendu nulle part, donc il faut se faire nos moyens de production nous-mêmes. À l'époque, en 77, la vidéo est un médium assez nouveau, assez économique, donc c'est une façon de se dire on va rapidement avoir nos propres moyens de production et on va avoir... on va créer nos boulots, on va créer nos jobs en faisant ça. Grosso modo, c'est le début de la... Donc, il y a Lorraine Dufour, Jean-Pierre Saint-Louis, Robert Morin, va se joindre à ça d'autres mondes. Nous, je dirais qu'on est la deuxième et la troisième mouture de cet organisme-là. Et donc, grosso modo, c'est devenu une boîte de production maintenant.
À la base, c'était vraiment l'idée, on va se créer nous-mêmes nos propres opportunités pour tourner, c'est ça? Ou pour réaliser, pour faire du son, pour faire du cinéma.
Ouais, on est dans une mouvance un peu hippie, un peu 68, post-68, je veux dire. La vidéo permet... comment je pourrais dire? Tous les thèmes n'étaient pas... les diffuseurs Radio-Canada, l'Office national du film n'étaient pas disposés de parler de... En tout cas, il y avait une façon plus standardisée de dire les choses et des sujets à aborder. La coop se disait, ils prendront pas nos documents. Il faut aussi se faire nous-mêmes notre propre porte-voix. Donc, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Mm-hmm. Tout à fait.
Bon, mais...
Bon, si il y a un consensus général, c'est très très bien. Mais vous le disiez justement, cette volonté un petit peu post-68-art de créer quelque chose de différent, vous le disiez, puisqu'on nous attend nulle part, nous-mêmes on va entrer en fait sur la scène de cette manière-là. Donc il y avait vraiment une idée de défendre une forme de création différente. Elle est toujours là 40 ans plus tard, cette idée?
Complètement, je crois. On continue de brandir un cinéma hyper indépendant. On a une liberté de création, je dirais, à la coop qui est farouche. Et on est peut-être un peu moins riche à cause de ça. On a peut-être un petit peu moins de moyens parce que les bailleurs de fonds ont tendance à aller vers des films et un cinéma plus sûr, plus attendu, ce qui fait qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu, mais comme on accorde une grande liberté au niveau éditorial et créatif chez nos créateurs, eh bien, on est peut-être un peu moins gourmand pour pouvoir jouir de cette liberté-là et avoir moins d'interventionnisme, je dirais, dans nos films. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Mm-hmm.
Et là, il faudra pas demander si on est toujours d'accord.
Oui, j'aime bien. Il y a un consul. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est très bien. Les gens sont d'accord entre eux. C'est fantastique. Mais justement, dans cette idée-là, les Français sont très ignorants du cinéma québécois en général. Moi, le premier, d'ailleurs. On sait à quel point ça peut être compliqué, le monde du cinéma français et la production indépendante française. Est-ce que le combat, voilà, de créer quelque chose d'un petit peu différent, de laisser libre cours aux créateurs et de peut-être tabler sur autre chose qu'un rapport d'argent avec la ménagère de 40 ans, est-ce que c'est difficile à tenir dans le cinéma québécois aujourd'hui?
Bah, autant qu'en France, je suis certaine que partout dans le monde, je pense que c'est... Je pense que oui. Je pense pas que c'est différent au Québec. Je pense juste qu'on est dans une... Bon, comme partout, là, il faut que ça soit rentable, puis... C'est pas trop mon idée du cinéma en général, mais c'est ça, c'est aussi normal. Là,
mais en même temps, faut être honnête, on n'a pas fait vœu de pauvreté. Là. Quand il y a des films qui marchent, les films marchent.
On est content.
Mais ce que je veux dire, c'est que le moteur de création n'est pas pécunier, n'est pas « on va faire plein de fric avec ce projet-là ». C'est pas l'objectif premier.
Et... Imaginons, à tout hasard, je suis jeune réalisateur québécois, tout à fait, ça s'entend à mon accent d'ailleurs, j'ai l'idée de faire un film, je viens vous rencontrer, comment ça se passe à partir de ce moment-là? C'est une hypothèse, hein. J'ai pas un scénario à vous proposer juste après, je vous préviens tout de suite.
Grosso modo, c'est... À chaque fois qu'on a essayé de définir le modus operandi de la coop, ça n'a pas fonctionné. On s'est souvent... En 40 ans, si on avait figé nos façons de faire, on ne serait plus là aujourd'hui. Donc, il y a eu souvent des mutations dans nos postulats, dans nos guidelines. Au début, pendant plusieurs années, ça a été... comment je dirais? Des affinités... affective, intellectuelle. L'amitié a souvent été la base du membership à la coop. Ça a souvent été, même si t'as un super bon projet, si on s'entend pas avec toi, si tu fais pas partie de la famille, je dirais, intellectuelle ou politique, ça va pas le faire. Donc, ça fonctionnait beaucoup sur une base d'atomes crochus. Et on n'a jamais été... Il faut faire une différence entre un centre d'accès et une coopérative. On est une compagnie, donc on n'accepte pas tous les projets. On n'est pas là pour... Comment je voudrais
on
dire?
On est limité aussi dans le nombre de projets qu'on peut recevoir.
Oui.
Malheureusement.
Limité dans quel sens, c'est-à-dire?
À cause des fonds. Parce qu'on ne peut pas déposer autant de projets qu'on voudrait nécessairement. Ça prend du temps aussi à accompagner les réalisateurs. Donc, on est obligé d'y aller un peu par coup de cœur, par ce qui nous stimule, je crois.
Oui.
Il y a des choix difficiles à faire de temps en temps, c'est ça?
Ah oui.
Souvent.
Et vous avez utilisé, Louis, des mots assez particuliers quand même, qui est genre famille sociopolitique aussi. Donc il y a quand même des visées, une envie. Il y a une ambiance, on a envie de dire, peut-être une idéologie générale dans la coop, du coup.
Qui est, comme je le disais, qui est pas... Il n'y a pas un manifeste coulé, c'est pas écrit et détaillé, ça se sent. C'est comme ça, c'est... Puis en même temps, tu sais, si on parle de famille, il ne faut pas oublier que les familles, ça peut être un truc très dysfonctionnel et très, comment je pourrais dire, paranoïaque. Les familles, dans les familles, il y a des disputes, il y a des mésententes, il y a des réconciliations. Il y a ça sur 40 ans dans une...
Mais il y a quelque chose qui unit quand même.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un truc qui se fait à l'intuition. Il y a eu beaucoup... On a fonctionné beaucoup à l'intuition. Ça nous a amené dans des périodes très... fast, d'autres fois dans des périodes où est-ce qu'on a ralenti. Là, je dis qu'on essaie maintenant d'un peu mieux paramétrer le truc. On s'est ouvert un peu plus. Le membership a augmenté beaucoup. On est plus de membres qu'on était. Et là, je sens qu'on est dans une phase où on veut du sang. On a ouvert la porte à du sang neuf.
Vous parliez de génération, enfin, c'était pas exactement ça le terme. Je sais plus ce que vous avez utilisé. Vous êtes la deuxième, la troisième.
Moi, j'ai dit mouture, mais je dirais que ouais, on est là.
Vous cherchez une nouvelle génération, là, de nouveaux réalisateurs?
On la cherche pas. Elle s'est imposée. Ils sont venus. Karine fait partie de ça. Laurence Côté-Collins. Il est arrivé du monde à Coop qui nous ont stimulés puis qui on remarquait leur volonté de faire des films, leur façon de faire, puis il y avait une similitude, il y avait une... ça cliquait.
Puis c'est oui, Karine, donc vous êtes toute jeune réalisatrice, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a eu votre premier court-métrage qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui d'ailleurs
Maître
sera
nageur.
Projeté. Pardon ?
Maître nageur.
Maître nageur, tout à fait. Et vous, vous êtes arrivée à la COP de cette manière-là?
Non, pas en tant que réalisatrice, non. En fait, j'ai commencé comme adjointe à la productrice, Stéphanie Morissette. Je travaillais avec elle à temps partiel. C'est elle qui m'a un peu appris tout le milieu de la production. Et elle travaillait aussi à la Coop Vidéo. Et à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert à temps plein. Donc, c'est là que j'ai embarqué. Ça fait 6 ans. Donc, je connais un peu bien le portrait de la production, surtout ce qui se fait à la Coop. Et à travers ça, ben, en ayant le parfait portrait de comment présenter des projets aux institutions, avoir des sous et tout ça, ben, c'est là que j'ai commencé à faire mes projets de mon côté. Donc, Maître nageur, c'est le premier que j'ai fait. J'aimerais ça en faire d'autres, mais évidemment, c'est pas non plus la seule chose que je fais, vu que je travaille à temps plein sur les projets des autres réalisateurs à la COOP. Donc, ça me permet de voir, en fait, la création sur tous les points de vue, autant de production, mais aussi de l'avoir fait. Ça te permet de comprendre le processus créatif.
Alors, justement, quelque chose de très intéressant, puisque vous êtes passé par la Karine, et Virginie, vous êtes productrice aussi, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est comme ça que le programme vous présente.
Oui. En fait, je co-dirige la Coop. On est une direction collégiale à trois têtes. Et productrice, en fait, je m'occupe de toute la production à micro-budget. Maintenant, je dis nano-budget, en fait.
Ah oui, on est passé à ça, carrément.
Moi, je considère que faire un long-métrage avec 150 000 $ c'est un cheveu, donc oui. On est dans le nano. Et en fait, je pilote ce secteur de la production et la distribution maintenant, parce qu'on s'est mis à faire de la distribution, les communications, les projets spéciaux. Donc, en fait, je dirige tout ce secteur-là, mais la production déléguée à proprement parler sur les plateaux de tournage et tout ça, ça, je laisse ça à des gens qui ont plus de temps que moi.
Mais il y a quand même un éventail et un panel de domaines, en tout cas de compétences différentes. On a l'impression que vous devez gérer, en fait, simplement.
Oui, moi, j'appelle ça de la gestion de chantier. Donc, gérer un projet ou gérer une boîte ou gérer une distribution ou quoi, ça reste que c'est de la coordination, c'est de l'administration, c'est organiser les choses, c'est avoir un sens de la perspective. C'est beaucoup l'art du pitch, l'art de la vente. Il faut vendre des idées, il faut vendre des films, il faut convaincre. On est tout le temps, surtout Karine et moi, les réalisateurs aussi, on est dans l'art de la conviction.
Donc on accompagne beaucoup
l'art
de
la séduction. Ouais. Mm-hmm.
Il y a cette quand on est spectateur, j'ai souvent l'impression le spectateur s'intéresse énormément aux films, aux comédiens, aux acteurs, puis un peu plus aux réalisateurs. Ouais. Et la partie de la production ou de la distribution, ce genre de choses, c'est toujours la partie un petit peu obscure en fait, simplement quand on est réalisateur. Et vous le disiez tout à l'heure, Karine, justement, que ça vous a permis d'avoir une autre vision, on va dire, sur le processus créatif.
Ça a des pour et des contre.
Ah bah justement, j'aimerais bien savoir quels sont les pour et quels sont les contre.
Bien, de travailler pour une boîte de production, c'est qu'on comprend un peu tout le mécanisme, autant quand justement on reçoit des sous pour faire le film, et on garde ça un peu en tête, qu'un créateur, normalement, ne va pas nécessairement se mettre de limites. Donc, dans mon cas, je suis consciente des limites, mais en même temps, j'essaie de me dire, non, si tu veux faire le film comme ça, vas-y comme ça, mais en même temps, je sais que, ben non, on ne peut pas dépasser le budget. Donc, moi, je suis un peu dans les deux, parce que autant la production m'intéresse, autant la réalisation aussi, et les deux, quand tu arrives à comprendre, ben faut essayer de trouver le juste milieu. Mais il y a beaucoup de réalisateurs qui, justement, eux, vont se concentrer sur leur contenu. Et c'est normal, c'est ça. Et le producteur, lui, va veiller à ce qu'on respecte tous les paramètres. Mais moi, ça m'arrive, d'être capable de comprendre les deux puis d'essayer de trouver le compromis.
Et Virginie, j'aime bien parce que vous disiez le but est de pitcher des idées, de vendre des idées. Je tiens quand même à citer cette phrase que j'ai trouvée sur votre site et que j'aime beaucoup. La Coop, c'est un terreau de création fertile foulé par des signatures cinématographiques fortes, libres et distinctes de rendre de grands talents. C'est pas mal comme pitch de vente de quelque chose. Vous savez qui l'a écrit, ça?
Ça, c'est des moutures qui s'améliorent d'année en année, hein, parce que c'est ça aussi l'art
du
pitch.
C'est sûr que nous autres, on parlerait jamais de nous-mêmes comme ça. Ça serait prétentieux, tant de ciné.
Mais en même temps, j'ai l'impression, c'est vrai que ça fait un peu prétentieux, mais j'ai l'impression que ça résume quand même bien ce que la Coop est devenue au travers des années.
Là, vous parliez de faire apparaître justement des réalisateurs et donner une autre vision, un autre moyen à une forme de cinéma. Là, on parle de terreau fertile. Ça se recoupe.
Moi, je dis toujours que la coop, c'est un laboratoire. J'ai l'impression qu'on a tous des lunettes protectrices et puis qu'on donne un grand laboratoire aux réalisateurs et ils arrivent avec leurs substances, ils font des mixettes et puis il y a de la fumée un peu partout qui sort et puis il y a des drôles de couleurs de liquide ou encore un carré de sable. Et puis c'est un peu les 400 coups du cinéma. On débarque dans le carré de sable, on leur donne des bonnes buttes de sable et puis ils vont s'amuser. Là-dedans, il y a quelque chose de très, très ludique dans la façon dont on fait le cinéma. Je trouve à la coop, ça se passe ailleurs comme ça aussi. Hein. Je ne veux pas qu'on laisse entendre qu'on est unique, mais c'est peut-être une des choses qui nous rassemble. C'est quand je pense par exemple à Brigitte Poupard qui a fait Au vu My Dead Body, qui au départ n'était pas un film. Elle s'est amusée carrément avec ses caméras. Elle s'est amusée avec le médium. C'était la première fois qu'elle touchait à ça. Elle vient du théâtre. Et elle a abordé le médium de façon ludique. Elle a essayé plein de trucs que d'autres réalisateurs qui ont peut-être 20 ans de métier n'ont pas cette propension-là. Ils sont plutôt dans quelque chose de plus standardisé, de plus, des voies plus classiques, de faire le métier tel qu'on a toujours fait le cinéma. Et je crois qu'à la coop, il n'y a pas que ça qui sort. On a des films plus classiques comme ceux de Catherine Martin. Mais ça reste que je crois qu'on a ce terrain de jeu qui est absolument formidable et j'ai l'impression qu'il est très, très attrayant pour les jeunes cinéastes, ce terrain de jeu-là.
Laboratoire d'alchimie, terrain de jeu, ça fait combien de temps que vous vendez des métaphores déjà?
On a toujours dit que j'étais très bonne dans les images.
C'est plutôt, je confirme ces dires. Est-ce que juste cette image un petit peu du laboratoire où on essaie des choses, d'expérience en fait, parce que vous parliez tout à l'heure aussi que vous pariez un petit peu sur des intuitions, sur des idées. Est-ce qu'il y a ce goût du risque qui est assez agréable dans la coop?
Je pense que oui, mais il faut dire aussi qu'il y a une signature très, très forte à la création de la coop, qui est Robert Morin, qui est un gars qui a joué avec... Robert a besoin d'un cadre, je dirais, formel. C'est pas seulement de raconter une histoire qui l'intéresse. Ce qu'on dit souvent, toutes les histoires ont été racontées. Maintenant, ce qu'il nous reste à trouver, c'est comment les raconter. Parce que les grands thèmes ont tous été abordés. Ça fait que ce qu'il faut faire, c'est être un peu inventif sur les façons de raconter les histoires. Et Robert, au niveau formel, dès ses premiers films, peut-être aussi que ça faut pas oublier qu'on s'appelle à l'époque, maintenant on dit la coop de Montréal, mais on était la coop vidéo de Montréal. Et la vidéo était un médium neuf qui offrait des possibilités très différentes, qui décloisonnaient le langage du cinéma. Et nous, on jouait sur la frontière entre les deux. Donc, il y a eu ça à coop, je pense. Il y a un héritage de ça, de jouer avec le médium, de jouer avec les formes, de jouer avec... d'essayer, en tout cas, d'être à tout le moins un peu inventif avec ce qu'on fait. Même encore le film qui va être présenté ici, là... problème d'infiltration, il y avait encore mis des paramètres des bases formelles très, très fortes. Et je pense que ça a été une des signatures de la coop qui demeure un peu, je pense. Je pense qu'on me dit fou en disant ça.
Eh oui.
Très bien. Et les 40 ans, justement, là maintenant, parce que bon, c'est 40 ans, quand ça tombe, c'est pas mal, hein, quand même. Oui, alors il y a des yeux, il y a des regards qui font. Oui, complètement. Pour vous, auditeurs, auditrices qui n'avaient pas l'image, mais il y a vraiment des yeux là qu'on fait mal. 40 ans, ça va? Tout va bien?
Chouette. Ouais. On est encore là. Je crois que le modèle coopératif, dans ce sens-là, nous a beaucoup, beaucoup aidés. C'est un des modèles économiques qui est le plus durable. Ça, c'est vraiment des études qui sont sorties à travers le monde. La forme coopérative en affaires est quelque chose qui traverse bon temps, mal an. Et je crois que ça nous a aidés beaucoup. Cette espèce de résilience qu'on a d'année en année, vache maigre, vache grasse. Donc, 40 ans, oui. Et puis, et ce 40 ans-là nous donne envie de continuer.
Puis, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, sur le retour des 40 ans, il y avait des jeunes étudiants qui sont très curieux. Ils viennent s'informer sur le modèle coopératif. Ça les interpelle, cette façon-là, ce modèle-là, de se dire, on va faire nos films nous autres-mêmes, puis on va s'organiser entre nous autres. Donc, ils viennent nous demander comment vous avez fait ça, vous autres, une coopérative. Ça, je trouve ça le fun. Ça veut dire que le modèle perdure dans le temps.
Le modèle a une résonance, en tout cas, même 40 ans plus tard, justement. Ouais,
surtout maintenant, je dirais.
Ah, pourquoi avec, surtout maintenant?
Ben parce qu'il y a un retour vers les coopératives, clairement pas juste en cinéma. Là, c'est,
en
moi, je suis beaucoup, beaucoup le modèle coopératif, forcément, en étant co-directrice. Et avec toute l'histoire du 1%, 99%, il y a beaucoup de jeunes qui ont l'impression que le modèle coopératif fait partie des réponses. D'après moi, pour contrecarrer le phénomène du 1% qui devient de plus en plus aberrant.
Alors, si on pousse la métaphore même un petit peu plus loin et dans l'univers du cinéma, en voyant une coopérative qui expérimente, qui donne sa chance aussi à des fois où c'est pas sûr, où il n'y a pas forcément un retour sur investissement ou de choses comme ça, face au 1% peut-être du cinéma ou à la thune, quels sont vos rapports, on va dire, peut-être avec des studios qui n'ont pas les mêmes idéologies que vous? Des studios, des boîtes de production, pardon, etc., tout ça.
On se complète.
Ouais, mais chacun moi, c'est vivre, fait... laisser vivre. Oui. Je mets mes énergies à faire des films, à les distribuer, à les accompagner.
Puis ça prend beaucoup d'énergie. Fait que les autres, après, ils font comme ils veulent. Hein, aussi.
Ouais.
Puis,
vraiment.
Et j'ai même pas de jugement par rapport à ça. Nous autres, ce modèle-là, je pense qu'il nous convenait plus. Puis il y a d'autres modèles qui conviennent davantage à d'autres, mais vraiment...
Oui, bien sûr, après, ponctuellement, on est allé aux barricades pour certains dossiers. Par exemple, la distribution, où on est allé sur des tables sur 40 ans, on est allé faire entendre notre voix dans certains dossiers. Ça, c'est sûr qu'il faut se faire entendre quand on n'est pas content, puis qu'on dit « Oh, ça, on fait partie du paysage, et ça, ça fait pas notre affaire. » Il y a des membres, c'est ça, on a délégué des membres des fois pour aller faire entendre notre voix sur des enjeux de la production ou de la distribution du cinéma.
Donc il y a quand même, mine de rien, malgré le fait que ça demande, comme vous le disiez, beaucoup d'énergie de créer un film, de distribuer un film, de produire un film, il y a aussi un combat pour faire valoir ce cinéma-là, ces différentes formes de cinéma.
Parce que le cinéma est indépendant, mais en même temps, moi personnellement, je déteste les étiquettes. Cinéma d'auteur, c'est clair, c'est le cinéaste qui a écrit son film, donc ça va. Cinéma indépendant, c'est vraiment par rapport à le rapport au financement, en fait. C'est de pouvoir, et ça revient un peu à ce que je disais au tout début, c'est de pouvoir se donner les moyens de notre liberté de création, mais en sachant très bien que probablement, avec un cinéma un peu moins consensuel, on se rattrape beaucoup avec Louis pour remplir nos coffres, qui fait un cinéma peut-être un petit peu plus consensuel, mais qui reste tout à fait intelligent et sensible et substantiel, quoi, dans la matière. Mais je crois que quand on va au front comme ça, c'est au niveau du financement, surtout. C'est quand il y a des aberrations d'iniquité au niveau de... Il n'y a pas de raison que... le 7e art, c'est un art. Et de le vouloir rentable, c'est une aberration en soi. Et je crois que c'est beaucoup là-dessus qu'on se bat. C'est-à-dire que ça peut exister un film qui ne soit pas rentable, mais qui mérite d'être tout aussi diffusé et soutenu. Moi, en fait, c'est comme ça que je le vois, quoi.
Mais des fois aussi, on va dans l'action. Par exemple, depuis quelques années, on était très malheureux au niveau de la distribution de nos œuvres, du boulot effectué par les distributeurs. Alors, on chialait beaucoup. On chialait, puis... Mais à un moment donné, on a fait « ça sert à rien de chialer, on va s'occuper de notre distribution. Voilà. » Et dernièrement, c'est pas plus vieux qu'il y a 4 ans, 3 ans, je dirais, on s'est dit « bon, ben on va arrêter de chialer, puis ça sert à rien d'aller faire des représentations auprès des institutions, on va prendre nous-mêmes la distribution de nos œuvres, de certaines œuvres. On va se réapproprier même des œuvres qui étaient dans le catalogue de d'autres distributeurs, puis on va les rapatrier, puis on va les distribuer nous-mêmes. » On est la fameuse adage, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc ça, des fois, il faut être proactif. Moi, je me suis trompé. Pendant des années, je disais, c'est déjà compliqué de produire des films, on va pas en plus faire de la distribution. Eh bien, j'avais tort. Et même des fois, c'est ça qui est correct dans la coop, c'est que tu peux te faire ramener tes positions. Et une des bonnes affaires qu'on a faites ces derniers temps, c'est de reprendre la distribution de notre catalogue. Ça, moi, je trouve que ça, c'est correct, une coopérative pour ça.
40 ans, la famille continue de grandir et elle va continuer à s'agrandir. Plus ou moins, c'est le projet, c'est le but, la continuité.
En fait, parce qu'on commence... Y a la première mouture commence à... à être fatigué un peu. Parce qu'il y a une chose, je crois que faire des films, on peut le faire jusqu'à 90, 100, si on a cette énergie, hein, la créativité et tout ça, ça c'est pas le lot des jeunes uniquement. Donc ça reste. Mais porter à bout de bras une organisation en termes d'administration, de gestion et tout ça, ça prend du 109 parce que c'est pas à 80 que tu as envie de oui ben oui puis de
du quotidien
de la poutine de ce que c'est d'organiser la maison au quotidien. Il y a ceux qui rentrent dans la maison qui viennent faire leur film et puis après ben il faut la peindre la maison, il faut l'entretenir, il faut passer le balai, il faut sortir les poubelles, faut et
ah,
ça
ben, là, c'est la métaphore, tu
oui je sais mais du coup on comprend ce que je veux dire. Et moi je pense que ça prend forcément une relève si on a envie d'être là demain matin, si on préfère que la coop meurt avec la première mouture, et ben bon, dans 5-10 ans, on non, disparaît.
Mais eux autres donnent le signal qu'ils ont le goût, qu'ils n'ont plus le goût, puis ils espèrent que d'autres membres prennent la relève.
Question vraiment de passer une forme de torche, une forme de savoir, et oui. Quelque chose, comme vous disiez, que vous aviez bâti et qui maintenant doit continuer de vivre d'une autre manière.
Et parce que ce qu'on a entendu, c'est que cette relève vient nous voir parce qu'ils ont envie de porter ce flambeau, parce qu'ils se disent « Chez vous, il y a quelque chose de particulier et c'est là-dedans que nous, on a envie d'inscrire notre cinéma. Et si vous nous accordez la place, ben, ce flambeau-là, on pourrait être prêt à continuer à notre manière, mais tout en respectant peut-être cette philosophie propre à la coop. Moi, c'est comme ça que je le reçois, en tout cas. »
Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec toutes les nouvelles technologies, les façons de faire changent. Mais on se rend compte aussi que les générations, ils se complètent. Donc, je repense à, par exemple, Lorraine, qui a été comme une des productrices et qui a parti la coop. Elle a une mémoire phénoménale. Donc, s'il nous manque une information, elle va le savoir ou elle va savoir où est l'information. Et tout ce qui était la technique à l'époque, elle se rappelle, ça l'a servi sur quel projet. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être que ça a été créé avant même ma naissance. Mais elle va être là, elle va l'expliquer. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est rendu numérique, ben, c'est rendu là que la nouvelle génération va dire ben, c'est quoi tel format ou comment c'est fait. Donc, ça vient comme compléter le passage un peu.
Et parce que je fais une digression, je ne peux pas m'en empêcher, mais Louis, tout à l'heure, vous parliez justement que la vidéo était nouvelle à l'époque, justement, cette nouvelle manière de faire du cinéma, de distribuer du cinéma, de montrer du cinéma. Il y a une évolution constante dans la manière de faire des images, et aujourd'hui, on le voit avec des téléphones portables, avec d'autres manières de filmer, avec d'autres manières de distribuer aussi un film. C'est quelque chose que vous voyez dans la nouvelle génération qui arrive justement à la COP, de voir ce renouveau avec des nouvelles idées. Je vous pose aussi la question à tous, à Karine aussi.
Mm-hmm. Ben, je pense, exemple, à Laurence Côté-Collins pour son film Écarté. Elle avait utilisé 3 caméras, donc elle avait cellulaire, une caméra HD et une GoPro. Donc, ça faisait partie vraiment de sa forme, un peu espèce de faux documentaire aussi. Donc, elle a vraiment exploré ce côté-là. Après, si on remonte plus dans les années 2000, ben, il y avait quand même de la pellicule. Donc aujourd'hui, ce qui est la problématique, c'est comment qu'on fait survivre les films qui ont été comme immortalisés en pellicule pour arriver à un passage au numérique et assurer la distribution. Donc tout ça a changé selon les années de production des films aussi, ouais. L'inspiration.
Alors, je vais enchaîner un petit peu, auditeur, auditrice, puisque donc les 40 ans, une forme de pas vraiment de rétrospective, mais plusieurs films différents qui sont sortis de la coop pour fêter leurs 40 ans, vous allez pouvoir justement les voir cet après-midi à la Genève Verte, notamment deux films dont on va parler maintenant, puisque nous avons les deux réalisateurs avec nous, et le premier sur lequel on va se concentrer, c'est Pinocchio.
Hello, Andréini.
Yes.
You spoke with the embassy?
Yes. Il y a un gars qui m'a appelé du Brésil. Il me dit, votre frère, il me doit beaucoup d'argent, il doit beaucoup d'argent à d'autres mondes, mais on est prêts à faire des arrangements si vous me payez, tu sais.
Your brother is a sociopath, he's a predator, and he's a danger to society. J'ai choisi de voyager, j'ai choisi de vivre mon rêve de bombe à plein.
Partout où il a passé, il y a des choses qui ont disparu.
He's wanted in England, Argentina, Bolivia, Colombia.
Là, vous pensez que vous êtes en prison pour
rien? Ben, exactement. Allô? Mi hermano? Mon frère est là. On y va.
How could I be so comfortable with somebody that wanted to hurt my family so bad?
was the best con artist and liar I've ever met in my life.
Je pense que quand t'as connu une personne pour la personne qu'elle est, moi, je suis pas capable, en tout cas, d'abandonner à partir de là, vraiment, tu sais. Tu te dis, ben, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête qui va pas bien.
Ça, est-ce que c'est inné, tu penses? T'es-tu né comme ça?
Ça a un talent.
Il y en a qui sont musiciens.
Tout est mental.
André-Lyne Beauparlant, du coup, avec le film Pinocchio. Et Pinocchio, j'ai très, très envie d'en parler parce que, pour donner un petit résumé, bien évidemment, nous sommes dans une émission sans spoil, puisque le but est que les auditeurs aillent le voir. Mais Pinocchio se concentre sur un personnage, véritablement, dans la bande-annonce et aussi dans le film, on entend des personnes vous dire à vous, la réalisatrice de ce documentaire, que cette personne est un sociopathe, un requin, un danger pour la société. Et cette personne s'appelle Eric, c'est votre frère.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit portrait d'Eric ?
Oui. Eric, mon frère, 4 ans plus jeune que moi, comme il dit lui-même, c'est lui qui dit ça, qu'il a un immense talent, un très, très grand talent, c'est-à-dire qu'il est capable de raconter n'importe quoi à n'importe qui. Donc, un menteur. Il s'invente. Il passe son temps à s'inventer et à se refaire. Donc, il se promène dans la vie, dans le monde, puis il s'invente. Voilà. Et j'ai décidé de faire un film sur lui il y a quelques années.
Cette personne qui a pour nom de famille Beauparlant.
Ouais, Beauparlant.
Très bien.
Ouais.
Je pense que je suis le premier à la faire, celle-là. alors, tout film est personnel, bien évidemment, mais celui-là, c'est assez évident de savoir pourquoi c'est personnel. C'est votre frère, c'est ouais. un personnage que vous avez décidé de filmer justement là-dessus. Qu'est-ce qui vous a fait dire, tiens, je ferai bien un film sur mon frère?
Ben, mon frère avait comme l'habitude de m'appeler, puis là, il me disait « Ah, je suis en Afrique, ah, je suis en Asie, ah, je suis au Moyen-Orient. » Et il m'appelait tout le temps d'un endroit différent. Il me racontait qu'il faisait le tour du monde sur des bateaux. Et puis, je n'étais pas trop certaine de son histoire. Puis j'ai demandé « Est-ce que je peux faire un film sur toi? » J'ai dit « Ok, je te rejoins dans 5 pays, puis tu me racontes ta vie. » Il me dit « Ok. » Je vous dirai pas tout le film, mais je peux juste vous dire que j'ai pas fait 5 pays. Puis je me suis ramassée avec un seul pays, une seule fois, puis avec moi devant la caméra qui cherche mon frère. Parce que mon frère s'est mis à disparaître, donc il a complètement disparu. Puis moi, j'ai cherché mon frère. Et puis c'était un peu ça le film. Fait que c'est une grosse, grosse, grosse aventure qui a tourné comme je pensais pas. Et c'était parfait. Et c'est lui qui a décidé que ça allait être autrement. Fait que voilà. Puis l'idée est venue de là parce qu'il me disait qu'il était tellement heureux, qu'il faisait le tour du monde. Puis j'avais envie de le croire. J'avais sincèrement envie de le croire. Là, moi, je suis comme une croyante, là. Puis je suis partie. C'est de là l'idée qui est partie comme ça avec lui.
Vous me disiez, c'est lui qui a décidé à un moment de dire tiens, ça va se faire comme ça, etc. Est-ce que c'est lui qui a pris les rênes, ou en tout cas qui a donné la nouvelle direction à ce que vous vouliez tourner?
Ben, je dis ça, puis en fait, non, mais en disparaissant, en étant plus là, quelque part, oui, là, pour que. Il fallait que je continue de le chercher, mais sans lui. Voilà, ouais.
Alors, il y a quelque chose de très intéressant, puisque depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de ce personnage. Et comme on l'a dit, quand on voit seulement la bande-annonce, il y a un côté terrifiant, apparemment, de la manière dont les personnes vous en parlent. Pourtant, dans une interview que j'ai trouvée, vous dites justement que dans votre film, il n'y a pas de jugement, en fait. Il n'y a pas de réponse. Vous n'allez pas donner les réponses à ça. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi à la caméra, c'est que c'est filmé avec énormément de douceur, d'attention et d'amour.
Ouais.
Vous dites que, pour vous, ce qui se passe, c'est ailleurs. Qu'est-ce qu'on entend par là?
C'est-à-dire que si au départ, j'ai envie de condamner quelqu'un, là, c'est mon frère, mais si je fais un film en étant complètement convaincu, si je fais un documentaire en étant convaincu de ce que... Puis ensuite, j'explique aux gens quoi penser, puis comment ressentir, puis comment le vivre, ça vaut vraiment pas la peine, là, j'ai d'autres choses à faire. Il me semble, j'ai plus comme une hypothèse, puis c'est émotivement que je fais un film, puis je suis pas dans le jugement parce que c'est plate, je condamne pas personne, pas plus mon frère que n'importe qui. En tout cas, je fais pas du documentaire pour ça. C'est pas comme ça que je vois les choses. Puis voilà. Fait que donc, je le condamnais pas. Il n'y a pas une narration en voix off qui dit « Mon frère, c'est un menteur. » Je dis, par moment, je pense qu'il s'invente, puis par moment, il transforme les histoires, puis il raconte d'autres histoires, puis c'est pas tout à fait la vérité, c'est pas tout à fait la réalité. Mais j'étais très curieuse, je suis encore très curieuse de ça, puis pas juste curieuse, avec beaucoup d'amour et de compassion. Puis il y a plein de gens qui sont obligés, je pense, dans la vie de s'inventer, puis on a tous menti. C'est pas comme si le mensonge faisait pas partie de la vie de tout le monde, mais là, c'était à différents niveaux. Mon frère, c'est un peu plus élevé que peut-être la moyenne, mais tout le monde ment à différents niveaux. Et ça, je trouve ça fascinant. On a tous besoin de se réinventer, on a tous besoin de croire, puis on a tous besoin, on a tous plus ou moins confiance en nous, puis on a tous besoin d'arrondir un peu, tu sais. Puis j'ai fait ça, je suis partie, j'ai commencé le film, je pense, avec un peu plus de colère, parce que mon frère avait un peu tendance à abuser de mes parents avec l'argent. Fait que j'ai commencé le film en colère, puis j'ai fini le tournage et le montage du film avec, je dirais, beaucoup de compassion et de compréhension malgré tout, parce que j'avais l'impression de plus en plus de m'approcher du trouble de mon frère, quelque chose comme ça, ouais, de son malaise.
Donc depuis le début du tournage, même de la production, jusqu'à la fin du montage, vous êtes passé par un éventail d'émotions.
Ouais, ben 7 ans, déjà, ça permet beaucoup d'émotions, fait que ça a pris 7 ans, c'est ça, donc... 7 ans parce que c'est la vie, parce que je fais d'autres choses, parce que mon frère disparaissait, parce qu'il n'y avait plus de bateau, je ne savais plus ce qu'il était, puis parce qu'il ne rappelait pas, parce que tout ça en même temps, et parce que je cherchais mon film, puis que je me cherchais, puis que je fais du documentaire de cette façon-là, puis que la coop permet que je puisse faire ça comme ça sur 7 ans. C'est pas super rentable faire un documentaire sur 7 ans.
c'est vrai que c'est pas non plus banal de voir le personnage principal disparaître au milieu de tournage.
Non, c'est surprenant.
Ça, je pense.
Non, oui, non, c'est quand t'as plus de personnage principal, c'est un peu difficile de faire une histoire. Ouais,
mais justement, ce mélange d'émotions, d'avoir réussi à le retranscrire à l'écran, sans non plus, comme vous le disiez, donner trop d'indications au spectateur, de pas lui dire genre c'est comme ça, la vérité c'est ça ou la vérité c'est ça, non, de lui laisser justement la possibilité lui aussi de se faire son idée, d'avoir autant d'émotions et d'affect pour un sujet pareil et de pourtant prendre ses distances dans le montage et la réalisation, ça n'a pas dû être un exercice facile, devait y avoir un petit peu conflit ou...
Non, j'ai déjà chaud, là. Déjà j'enlève mon manteau.
Tout à fait.
Non, c'est difficile. Je pense que je dirais même que c'est peut-être la partie la plus difficile dans ce film-là. En tout cas, c'est la partie la plus difficile puis émotive parce que là, tout a un impact. C'est un film sur ma famille. En plus, c'est tous des gens vivants, là. Donc, je parle d'un sujet difficile. C'est tabou chez nous. Le mensonge, qui c'est qui a envie de se vanter que son frère ou sa sœur, son père ou sa mère, c'est des menteurs, tu sais. Il n'y a personne qui a envie de dire ça. Puis même moi, j'ai même pas envie de le dire. J'ai la misère à dire le mot menteur quand je parle de mon frère, tu sais. Je passe mon temps à prendre des tournures pour dire qu'il s'invente une vie, qu'il se rêve une vie, je passe mon temps à même pas dire ça. Je trouve que c'est fort, c'est gros, ça manque de nuances de juste dire ça, tu sais. Donc, puis en salle de montage, ben là, j'étais pris avec ces contradictions-là, puis je voulais pas le condamner. Je voyais pas l'intérêt de faire ça, puis d'y aller. Je vois pas l'intérêt. C'est rempli de nuances, tu sais. En général, je pense que c'est beaucoup plus gris. Y a pas de noir, y a pas de blanc. Puis même des fois, quand j'étais en colère, puis oui, j'ai beaucoup pleuré en salle de montage parce que je pleurais. J'avais de la peine pour lui, puis j'avais de la peine aussi pour mes parents qui sont dans le film, qui se racontent puis qui vivent ça aussi. Puis il y a tout le chaos. Quand tu fais affaire à quelqu'un qui se réinvente comme mon frère, où est-ce que tout est un peu flou, tout le temps un peu flou, ça laisse dans un drôle d'état émotif. Puis j'essaie de traduire ça dans le montage du film. J'essayais de justement un peu mélanger la temporalité, de plus savoir exactement dans quel pays on est. Hop! Quand est-ce qu'il... Ah, c'est quand ça? C'est quoi? Parce qu'on est toujours dans cet état-là qu'on fait affaire avec quelqu'un qui est trouble, qui est flou.
De créer, c'est peut-être un peu flou, un peu de confusion à travers le montage.
Je voulais faire un montage, c'était ça le but, puis j'espère que je me suis approchée. C'était comme vraiment un montage émotif, un montage plus sensoriel. Je voulais qu'on reçoive l'histoire d'une façon un petit peu déstabilisée. T'sais. C'était un peu c'était ça que j'essayais de faire.
Et le titre du film, qui est simplement Pinocchio, qui maintenant qu'on connaît un peu plus l'histoire et prend du sens, vous l'aviez trouvé au début, à la fin, quand est-ce que Pinocchio est venu? Quand est-ce que tiens, ça marche bien?
Dès le départ, parce que c'est pas expliqué dans le film. Il y a des choses qu'on décide de plus expliquer, qu'ils ont été là, demandés, qu'ils sont plus là. Mais mon frère, son personnage préféré quand qu'il était enfant, c'était Pinocchio. Donc, puis bon, on le raconte plus dans le film, mais qu'importe, c'est ça. C'est ça son histoire.
Peut-être pour finir, une fois que le montage final a été fait, j'ai pas envie de dire à la première, j'ai même envie de dire avant, une fois que vous avez peut-être mis la dernière image comme ça, que vous êtes dit, je montre un portrait de personnes qui sont chères à mon cœur, mon frère, mes parents, etc., ma famille, et que je vais montrer ça à des spectateurs. Est-ce que c'était une fois tout ça fini, est-ce que le portrait que vous vouliez montrer, c'était celui que vous vouliez montrer à la base aussi ou pas, ou que ça avait complètement changé?
Ben, ça bouge, hein, le documentaire, puis l'art en général, la peinture, ça bouge, puis donc c'était un peu ça, puis c'était pas ça. Je veux dire, ça a bougé, tu sais, ça a bougé. Donc j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Oui et non. Oui. Oui et non, je peux dire oui et non.
Tout, oui, vous avez le droit.
Ouais,
le
oui
droit,
et non, oui et non, en partie. Par exemple, dans mon film, il y a des petits moments, il y a des petites capsules d'enfance où est-ce qu'on voit les enfants, tout ça. T'sais. Et tout ça, c'est inventé, c'est même pas ma famille. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas juste mon frère qui se réinvente. Moi aussi, j'invente. Là, moi aussi, j'ai inventé dans le film. En partie, quand on fait du cinéma, c'est ça qu'on fait, même du documentaire, tu sais.
Est-ce qu'il y a juste un tout petit peu de peur de montrer ce portrait-là de personnes proches, quoi, comme ça, de peut-être sujet un peu tabou, comme vous le disiez, de le montrer en salle, de le montrer...
Ben, je peux juste dire que je n'ai fait que des documentaires sur ma famille, fait que peut-être que je commence à être habituée. Puis, c'est pas là que ça se passe, c'est pas quand on présente, c'est pendant le processus, je pense que c'est... Une fois la présentation, c'est quand même... C'est vrai que ça a l'air d'un film de famille, mais c'est pas du tout un film de famille. C'est quelque chose de très, très écrit, très, très construit. Donc, ça parle de la famille, mais c'est pas un film de famille. C'est un film. C'est écrit, pensé, c'est gossé.
Il y a une vraie construction.
Ah, c'est une construction de malade, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un film de famille. Fait que, oui, après, on espère que tout le monde... Mais c'est pas là. On espère que les gens vont recevoir le film, tu sais, plus que... Ouais, d'abord.
Auditeur, auditrice, pour recevoir le film, ce sera donc à 18h tout à l'heure dans la Genève Verte. Merci beaucoup, en tout cas, de nous en avoir parlé.
Ça me fait plaisir. Micro, puis je pense, en plus, je vais répondre à des questions après le film, si ça vous intéresse.
Ah, je pense, à mon avis, pour l'avoir vu, pour avoir les avantages dégueulasses des journalistes, pour l'avoir vu avant, je pense, auditeur, auditrice, que vous aurez quelques questions à poser.
Il paraît qu'ils vont mettre des grosses ballons dans les stérines. Quand tu vas fesser dans quelque chose, ça va se gonfler d'un chat. Hein? Je me demande qu'est-ce que ça va faire si, mettons, que tu fumes une cigarette. Ça va te faire péter la ballon ou bien si ça va te brûler la face? Ça, ils disent pas ça.
Calvet! L'air sort ben trop vite pour les bicycles à pédale.
Je l'avais dit aussi de mettre un dessin pour avertir le monde.
Hein? Allez! On m'achète une trip de bicycle. Tu passes la journée de même, hein?
Je vais me tourner maintenant vers Louis Béranger pour parler du film Gaz Bar Blues. Et j'ai réussi. Merci.
Vous avez réussi le titre, mais pas mon nom de famille.
Mince, qu'est-ce que j'ai dit?
Béranger.
Et c'est pas du tout ça, hein?
Non, c'est Bélanger.
Bélanger.
Mais vous avez bien réussi le titre.
Ouais, ça fait que 50%, du coup, je vais me faire engueuler.
Excuse-moi, je pouvais pas
entendre. Je vais me faire engueuler. Alors... Non. Gaz Bar Blues, qui date de 2003, si je dis pas de bêtises.
Ouais, exactement.
Alors, qui est, moi, ce que je veux dire, je pense que les cahiers du cinéma ont sûrement une autre manière de le dire, mais moi, j'appelle ça des films tranches de vie, des films où on voit énormément de personnages et on les voit dans des moments pas spécifiques dans leur vie, justement. Ce que j'aimerais savoir avant toute chose, peut-être pour donner un petit peu un synopsis aux auditeurs et aux auditrices, tout tourne autour d'une station essence dans la fin des années 80, si je ne dis pas
exactement,
le bêtis, 89. Tout tourne autour d'une station essence, du père qui la tient depuis 15 ans, de ses trois fils qui sont là, puis qui sont moins là à des moments, et tous les personnages qui gravitent autour. J'aimerais vraiment savoir comment, en fait, tous ces personnages, puisque c'est un film pour moi qui sont des personnages, il y a un casting absolument incroyable. Ces personnages-là, comment vous les avez écrits? C'est des connaissances? C'est des gens que vous aviez quand vous étiez petit, peut-être? Des portraits que vous aviez, que vous avez refaits? Ou c'était complètement des personnages inventés? Qui c'est, tous ces gens?
C'est la même affaire que ce qu'André Lynn vient de dire.
C'est un film de famille.
C'est un film de famille. C'est un grand mensonge.
C'est le thème de l'émission, je suis content.
Ouais, non, mais c'est. Moi, je dis toujours que c'est un grand mensonge basé sur beaucoup de vérités. Gaspard, c'est ça. Mon père avait une station-service. En fait, c'est un film autobiographique. C'est une psychanalyse, ce film-là. Mon père avait une station-service. Moi et mes frères, on travaillait. On était obligés de travailler là-bas. Donc. Moi, je racontais, après avoir fait post-mortem, je me demandais un peu mon premier long métrage, je me demandais ça allait être quoi mon prochain film. Puis je faisais rigoler les amis à la coop, Robert, Bernard. Je faisais rigoler le monde en leur racontant des bouts de vie à la station-service. Et c'est Bernard Raymond, puis un peu Robert qui m'a dit « Tu devrais faire un film avec ça. » Puis moi, j'ai dit « Non, c'est ma vie, c'est pas vraiment intéressant. » Mais j'ai laissé décanter, puis j'ai rempli. J'ai couché sur papier mes souvenirs. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben, il faudrait ramener tout ça sur un été charnière. C'est la chronique d'un été. J'ai décidé de planter la... Parce qu'en réalité, moi, ces années-là, ça se passait plutôt dans les années 70. J'ai décidé de ramener toute cette action-là en 1989, pendant la chute du mur de Berlin. Parce que pour moi, c'est le jour 1 de la mondialisation. Quand le mur de Berlin est tombé, c'était la fin d'une façon de comprendre et d'expliquer le monde. On ne savait pas à l'époque que ça allait être le jour 1 de la mondialisation. Mais comme je fais le film en 2003, je le tourne en 2002, je suis capable de poser ce regard-là. Donc, si on revient au personnage, tous ces gens-là ont existé. Monsieur Savard... mon père, tous les clients. C'est sûr que j'ai concentré des fois certains deux personnages en un seul, mais tout ça, c'est ma jeunesse.
Monsieur Savard, c'est mon préféré, personnellement, je tenais à le dire.
C'est un de mes grands amis dans la vie.
Et justement, que ce soit ces personnes qui ont existé, et des fois d'en créer un seul avec deux, mais surtout de devoir trouver des acteurs... pour les incarner. Comment ça s'est passé? Parce que devait y avoir une vision peut-être un petit peu difficile entre le personnage créé, la vérité, ce que vous vouliez qu'il représente aussi, comment vous vouliez qu'il le joue. Comment ça s'est passé pour trouver? Parce qu'il y a une dizaine de personnages. Hein.
C'est très difficile. Il y a deux personnes bien, bien importantes dans la création de ce film-là. C'est Emmanuel Beaugrand-Champagne puis André Lynn Beauparlant pour recréer tout l'univers visuel, toute l'atmosphère de ça, autant dans l'environnement visuel que dans l'environnement humain. Donc, j'ai fait ce travail-là avec des interlocuteurs. J'avais une idée. Au début, je me suis dit, c'est pas une bonne idée d'essayer de chercher dans les comédiens des ressemblances physiques avec ceux qui ont été dans la vraie vie. Mais en discutant avec Emmanuelle Beaugrand-Champagne, donc ma directrice de casting, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire autrement et qu'il fallait passer par là pour le casting. Que les deux fils ressemblent étrangement. Danny Gilmore, qui fait l'harmoniciste, c'est une copie conforme de mon frère Guy. Il bouge pareil, il cherche à charmer. Le gars qui fait Sébastien Delorme ressemble à mon grand frère Claude. Le boss, Serge Thériault, une fois qu'il a les cheveux blancs, c'est le portrait de mon père. Monsieur Savard, Gilles Renaud ressemble à Monsieur Bédard. J'ai été obligé de passer par là. Après ça, pour la recherche des lieux de tournage, on s'est promené partout à travers le Québec avec André Lynn. Pour finalement, André Lynn, elle m'a dit « Tu n'y arriveras pas. On n'est jamais heureux. Puis ce que tu as connu, Louis, tu nous parles de quelque chose qui existait et tu dis dans ton film que ça a disparu. » Et c'est effectivement disparu. Il n'y en avait plus des stations-service de ce... Donc, on l'a construit de toutes pièces et elle l'a construit... En me faisant parler, en me faisant... Même, je pense que mon frère Guy a fait des dessins à un moment donné.
Ta mère? Elle me dit, ben là, ça peut pas être là, ça, là.
Oui. Donc, on a construit ça selon nos souvenirs. J'étais donc incapable de m'éloigner trop de ce qui avait été, mais ça a tourné à mon avantage. Quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, j'avais une précision terrible pour dire, la scène, voici comment elle va se passer. Tu pars de là, tu t'assois ici, puis tu t'envoles là, puis sur tel mot, tu... Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai passé 4 ans à écrire ce scénario-là, donc le papier musique était... le papier, je veux dire, la musicalité des dialogues, les dialogues, c'était très précis. Il n'y a quasiment rien qui a changé au montage. Entre le, si on lit le scénario et qu'on regarde le montage, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas de scène qui change de place ou de... C'est, même, il n'y a pas d'improvisation. Les dialogues sont là, il n'y a pas d'improvisation dans ce film-là. C'est assez bizarre. C'est pas le même dans tous les films, mais celui-là était tellement autobiographique que c'était difficile d'en déroger.
Film autobiographique avec justement des personnages aux ressemblances physiques, comme vous le disiez. Un plateau de tournage fait pour ressembler à ce que c'était. Est-ce que pendant le tournage, il y avait des moments où la réalité se mélangeait un petit peu aux souvenirs? Comment ça se passait?
Ben, il y a surtout eu des moments très bizarres quand André Lynn a fini le décor. Donc, d'une vieille station-service des années 80, le lendemain, il y avait des automobiles qui attendaient à l'îlot de service.
Ah.
Puis on leur disait, mais on ne sert pas d'essence ici, c'est un décor de cinéma. Mais les gens voyaient les prix affichés, les prix des années 80. Donc, ils faisaient la file d'attente. Mais les gens disaient, ouais, mais nous, on reste ici parce que l'essence est vraiment pas chère. C'est dire. Puis là, nous, on était là, André-Lyne puis moi, on se demandait, est-ce que c'est crédible? Puis quand on a vu que les gens venaient vraiment pour acheter, là, on s'est dit, OK, notre décor, il fonctionne à fond la caisse. Là, on peut y aller. Mais oui, il y a eu des... C'est un tournage béni pour moi, d'une grande facilité. Parce qu'après ça, on s'est lancé dans d'autres projets beaucoup plus difficiles au niveau de la réalisation, au niveau de la construction, puis au niveau du... Mais là, on parle d'un moment de bonheur qui arrive dans une carrière d'un réalisateur où les gens, par exemple, M. Savard, il venait faire un tour sur le comédien Gilles Renaud venait faire un tour sur le plateau de tournage les journées où il ne tournait pas parce qu'il voulait venir prendre un café avec la gang. Il arrivait à l'avance sa dernière scène. Quand il joue sa dernière scène, Gilles, il pleure. Et c'est la scène de fermeture de la station-service. Puis là, tout le monde me dit, « Ah, c'est génial, l'acteur a pleuré. » Puis là, moi, je dis, « Ouais, ça... » On en fait une autre. Il faut en faire une autre parce que Gilles Renaud, le comédien, pleure parce que c'est son dernier plan, puis le projet fini. Mais M. Savard n'aurait jamais pleuré. Il va être aussi touché, mais il faut qu'il retienne ses larmes. Mais on avait un rapport... Et c'est l'époque encore où... Quand on finissait la journée de tournage, on regardait les roches ensemble le soir en prenant une bière puis en discutant. C'était une façon de faire du cinéma un peu différente d'aujourd'hui.
Mais vous parlez justement de ce rapport de tous ensemble, puisque le film décrit une famille plus loin que le père et ses trois fils.
Oui.
Tous les gens qui viennent tous les jours, etc. Chacun, d'ailleurs, ont des rôles très prédéfinis dans la famille. Et... Ça se sent, en fait, au visionnage du film. On a l'impression d'être à cette époque, d'être dans cette famille. Donc, chaque comédien, il y a dû avoir cette cellule familiale qui s'est créée entre les comédiens. Elle paraît profondément réelle.
Ouais, j'ai pris aussi des gens... Je choisis pas mes comédiens en fonction uniquement de leur performance. Je choisis les comédiens... parce que le rôle d'un réalisateur, c'est pas uniquement de mettre en scène... Mais c'est aussi la gestion d'ego, la gestion du travail d'équipe. On ne parle pas souvent de ça, mais le metteur en scène, c'est aussi de gérer l'énergie des comédiens. Donc, quand je choisis mes acteurs, je choisis des gens qui vont bien s'entendre, qui vont avoir du plaisir. Parce que je dis tout le temps que faire un film, c'est très difficile, c'est un moment rare, et il faut que ça se passe dans le bonheur. Parce que si il y a des antagonismes sur un plateau de tournage, c'est pas plaisant. Et le travail s'en ressent. Et le film s'en ressent. Donc, j'ai choisi des gens avec qui je savais qu'on allait s'amuser, qui allaient bien s'entendre, qui allaient comprendre leur fonction dans le récit. Et moi aussi, je les ai tous connus, ces messieurs-là. Et je dis souvent que j'ai appris plus à la station-service de mon père sur l'homme, sur l'hommerie, sur l'homme, que sur les bancs d'école. J'ai appris plus avec ces analphabètes fonctionnels-là que de certains de mes professeurs. J'ai appris les rapports entre les hommes, les rapports du monde le monde ouvrier. Et il y a bien des gens qui lisaient mal mon scénario au début puis qui pensaient que j'avais un regard hautain sur ces bonhommes-là qui sont finalement ils sont en marge de la société, ils travaillent pas, c'est des gens qui ont pas beaucoup d'emplois, qui passent leur journée à rien faire puis à discuter. Mais moi, j'ai appris de ces bonhommes-là, puis je les aime d'amour. J'ai appris avec eux autres, je les ai respectés. Et je disais toujours, ce film-là, il y avait un sous-titre qui était ce qui s'appelait « Ode au monde ordinaire ». Et ça, je pense que je voulais faire ça. Puis je pense que ça, ça paraît. Il y a une chanson des Rolling Stones qui s'appelle « Salt of the Earth ». Let's raise our drink to the hard-working people. Puis ça, c'était une affaire qui m'animait à l'écriture du scénario.
Notamment dans le tournage, puisqu'on on voit, vous parliez que vous l'avez placé justement au moment de la chute de Berlin, la chute du mur de Berlin, pardon, parce que la chute de Berlin en elle-même, pas des masses, mais où justement l'un des personnages, Régent,
oui.
Ça. Régent part là-bas, voit le monde comme le monde est en train de changer, puis
oui.
Par plein d'idéaux plein la tête, puis au fur et à mesure des lettres et des photos commence à les perdre les uns après les autres, commence à dire lui-même j'aimerais bien que les choses ne bougent pas,
oui.
Et on ne voit pas le monde évoluer dans ce film, on voit justement un endroit et on entend le monde évoluer autour,
oui.
Mais on
oui.
Ne le voit pas en ce moment même.
Oui.
D'accord, c'est pas vraiment une question ce que je viens de poser.
Non, mais c'est tout à fait une remarque juste. Parce que en réalité, c'est moi qui est allé en 89, j'étais colocataire avec Robert Morin, et à la télé, on voit les premières images, le mur, il y a une brèche dans le mur, puis le mur est ouvert, et j'étais avec ma copine, puis je dis ben on prend l'avion, puis on est là demain, et donc j'ai fait des photos, un peu. C'était l'idée un peu, c'était Chris Marker l'a jeté, des photos avec, j'avais emprunté un Walkman Pro, on ramassait le son en direct, puis je me disais, je vais faire un petit court-métrage. Et ces images-là, ces photos-là ont dormi pendant 15 ans dans mon tiroir. Et c'est peut-être à la troisième version d'écriture que je me suis dit, ah si je faisais une métaphore entre l'effondrement, la disparition des stations-service et la disparition de cette façon-là, de la chute du mur et tout ça. Donc, j'ai réutilisé mes photos et j'ai intégré ça dans le film. Donc, souvent, l'écriture d'un film, c'est plusieurs versions. La première version, c'était l'histoire du jeune homme. C'était pas l'histoire... Ça prend plusieurs moutures. Je m'en rappelle, j'avais fait lire mon scénario à Robert qui m'avait dit « C'est bon ton affaire, mais c'est ennuyant que ça soit le petit gars. » J'étais fâché contre lui. Je m'étais dit, il comprend rien, mais j'avais laissé décanter, puis j'avais écrit une autre version en me disant, finalement, c'est le père qui doit être le personnage principal.
Le temps passe très vite et je dois, dans pas longtemps, même tout de suite, vous relâcher pour que vous puissiez retourner à vos occupations, justement, dans le cadre du Festival 48 Images Secondes. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus autour de ce plateau et d'avoir bien voulu répondre à nos questions aujourd'hui. Et puis, on va vous souhaiter un excellent festival, bien évidemment. Auditeurs, auditrices, si vous avez quelconque question à poser à ces personnes-là, ça tombe bien parce qu'ils sont en ce moment même à la Jeunette Verte, vous pouvez y aller parce qu'en fait, on ne fait pas vraiment un direct, les médias vous mentent et vous le savez. Sur ce, encore merci beaucoup à vous d'être venus et puis bonne projection en tout cas.
Merci beaucoup.